Les coqs chantent et jour paraît, tous ces debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Bonjour madame, je viens pour la conférence de presse. Merci.
Aujourd'hui, le coq chante vous amène au siège de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris. Après des activités en pointillé pour cause de Covid-19 et des mesures barrières, c'est la première grande rencontre des chambres d'agriculture avec la presse. Aujourd'hui, il s'agit de faire le bilan des récoltes 2019-2020. Le secteur de l'agriculture occupe en France une grande place avec 450 000 exploitations agricoles employant 885 400 exploitants agricoles. C'est pourquoi les différents acteurs surveillent avec une grande attention les différents chiffres. Or, on prévoit une année 2020 catastrophique pour l'agriculture. Des mauvaises récoltes de blé, des prévisions catastrophiques pour le maïs, des prairies asséchées, les céréaliers et les éleveurs tirent la sonnette d'alarme. Après un hiver particulièrement humide, la sécheresse annonce une année noire pour l'agriculture. Sébastien Winsor est agriculteur et président des chambres d'agriculture. C'est un témoignage précieux parce que l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est une structure qui a une vision globale de la situation et une présence au niveau local.
Oui, absolument. Je suis agriculteur en Normandie. J'ai la chance d'être dans une zone bien arrosée où il pleut un peu toute l'année et où il y a des sols profonds et fertiles, ce qui est une vraie situation de rêve quand on est agriculteur. C'est pas le cas dans toute la France et je peux vous dire que même chez moi on commence à sentir les effets du changement climatique avec des étés de plus en plus secs, des hivers de plus en plus arrosés avec des excès d'eau. Même en Normandie, quand on commence à souffrir de la sécheresse, c'est que la situation est compliquée dans le reste de la France.
Qu'est-ce que vous produisez dans votre exploitation ?
La première culture, c'est le blé. Et puis, j'ai une rotation de culture sur toutes mes parcelles. Et donc, j'ai dans cette rotation des betteraves, du colza, du lin pour faire des vêtements, qui est une spécificité de la Normandie, un peu de petits pois ou de févrole de temps en temps, de l'orge de printemps ou de l'orge d'hiver pour faire de la bière. J'ai quelques petites cultures que voilà, je fais un peu de sarrasin ou quelques petites cultures comme ça, un peu moins présentes avec des débouchés très spécifiques. J'ai sur mon exploitation aussi un élevage de porc, et avec le blé et avec le maïs produit sur l'exploitation. Il descend dans une usine, on enlève l'huile et je récupère les protéines pour nourrir mes animaux.
Aujourd'hui, nous sommes là pour votre conférence de presse qu'on pourrait dire de rentrée, pour faire la situation, l'état des lieux de l'agriculture française. Et Covid oblige, on a reporté cette manifestation déjà.
Absolument, la crise Covid, elle a eu plusieurs impacts. Elle a eu d'abord un impact à très court terme pour tous les gens qui faisaient la vente directe et qui opéraient sur des marchés style restauration collective ou chez le restaurateur, qui ont fermé leurs portes du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, ces gens-là se sont retrouvés sans aucun débouché. Et donc, à partir de là, nous, on les a accompagnés à se tourner vers la grande distribution, par exemple, qui, elle, manquait de produits. Donc, on a d'abord aidé à les réorienter. Ensuite, on les a accompagnés dans les démarches administratives, parce qu'ils ont dû parfois mettre leur personnel au chômage technique. Donc, on a accompagné les démarches administratives, etc., pour faire tout ce travail, pour essayer d'aller chercher les aides qui pouvaient les aider à passer le cap. On les a accompagnés dans leur vie quotidienne, mais alors de façon totalement différente. Par exemple, un agriculteur, il doit faire une déclaration de tout ce qu'il cultive chez lui pour l'Europe, pour la politique agricole commune. C'est un dossier un peu compliqué à faire, sur lequel l'agriculteur a souvent besoin d'être accompagné par un technicien. Ben là, il a fallu faire l'accompagnement. Mais ça, c'est le rôle qu'ont fait les chambres à court terme. Après, l'impact très fort, il est sur un certain nombre de filières, et puis il est souvent lié à d'autres choses. On a la filière vin, par exemple, ou la filière agneau, ce sont des produits un peu festifs. Donc quand vous êtes en crise Covid, là vous êtes enfermé chez vous, vous consommez moins de vin, vous mangez moins de gigots en famille, on a perdu ces marchés-là. Puis en plus, la guerre Airbus-Boeing, qui a été bien accentuée par la crise, et le fait qu'ils ne vendent plus d'avions, a des conséquences collatérales. Voilà, quand le président des États-Unis met en place des taxes sur les vins français, eh ben c'est des vins qui partent plus, qui se vendent plus. Et beaucoup de producteurs qui se trouvent à avoir des stocks de vins colossaux, et un stock, ça coûte cher. Et donc, tout ça, ça va quand même se traduire par la perte de quasiment 1 milliard sur l'excédent commercial agricole français, ce qui est absolument colossal parce qu'on a perdu des marchés.
Décrivez, c'est quand même une situation délicate pour le producteur, parce que ce sont des denrées périssables la plupart du temps. Il ne peut pas les écouler.
C'est pour ça que quand ils ont perdu leur marché, par exemple sur la restauration, très très vite, et notre première tâche, ça a été de les aider à trouver d'autres marchés, de les aider à aller vers la grande distribution, de les aider à faire de la vente directe de chez eux, de mettre en place par exemple des achats par internet ou autre. Ces produits-là, il ne fallait pas qu'ils soient 6 mois sans les vendre, ils auraient tout perdu. Après, c'est effectivement des situations dramatiques. Alors, quand il n'y a plus de rentrée d'argent chez l'agriculteur, parce qu'il ne vend plus, il peut tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au-delà, ça commence à devenir très compliqué.
Vous avez parlé d'audit stratégique de l'exploitation. Qu'est-ce que c'est ?
On voit bien les agriculteurs qui sont dans des difficultés financières, parce que changement climatique, parce que arrivée d'insectes résistants, suppression de matières actives qu'on a le droit d'utiliser, et les agriculteurs qui sont souvent dans des impasses ou dans des difficultés financières ou dans des charges de travail où ils n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau. Et donc, cette partie audit stratégique, mais le but, c'est surtout pas de se limiter à un audit, c'est de faire, de prendre le temps avec l'agriculteur, de faire le point, de regarder l'exploitation et de se dire sur mon exploitation, qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour rendre mon exploitation plus viable économiquement, pour aller chercher des nouveaux marchés, pour améliorer ma situation environnementale. Voilà, je prends un temps de recul et je regarde quels éléments je vais changer sur mon exploitation, moi en tant qu'agriculteur. Et donc c'est ça. Et c'est ça qu'on est en train de tester, où on fait premier échange avec l'agriculteur, où on fait un état des lieux de l'exploitation, mais où on sent aussi ses difficultés, ce qu'il a envie de changer, et où derrière on arrive non seulement à un audit, mais à une proposition d'un certain nombre de changements que l'agriculteur peut mettre en place dans les années qui suivent.
Mais ça, c'est un peu délicat dans la mesure où vous ne pouvez pas le faire à distance. Vous êtes obligé de venir voir ma ferme, et comment je produis, et comment j'exploite, et où ça va et où ça ne va pas.
Il faut voir les choses, il faut regarder l'exploitation, voir comment ça se passe. Puis il y a besoin aussi de sentir le ressenti de l'agriculteur. C'est quoi sa difficulté ? Est-ce que sa difficulté, c'est un manque de revenus ? Est-ce que sa difficulté, c'est un temps de travail qui est en train d'exploser et donc une situation familiale qui va se tendre ? Voilà. Est-ce que c'est de l'isolement ? Est-ce que c'est, à l'inverse, des problèmes techniques ? Et donc on a vraiment besoin, pour faire ça, d'abord d'un temps d'échange pour bien comprendre, et puis ensuite de sentir ce que l'agriculteur il est prêt à changer. C'est pas le technicien qui peut arriver et lui dire il faut que tu changes ça, ça et ça. Ça, ça marchera pas. Il faut que l'agriculteur il s'approprie ses enjeux et qu'il regarde avec le technicien ce qu'il peut changer et qu'il fasse lui le choix du projet qu'il va amener sur son exploitation.
Ce que nous venons d'entendre concerne les difficultés que l'on pourrait qualifier de structurelles. Et voilà que le climat vient compliquer la donne. Et ces conditions climatiques très défavorables font qu'on a cette année des rendements historiquement bas. Pour le blé, on enregistre une baisse de 25% des récoltes, une baisse de rendement de 36% pour le colza, une baisse de 10% pour la viande ovine.
Alors, un hiver doux est très pluvieux. Des excès d'eau et donc des cultures qui ont baigné dans l'eau tout l'hiver, notamment des blés qui ont été complètement asphyxiés par de l'excès d'eau dans certaines zones. Et puis d'un seul coup, on passe à 3 mois sans pluie. Quand je dis sans pluie, avec moins de 20 mm ou 30 mm pendant ces 3 mois. Quand en plus vos plantes, elles ont baigné dans l'eau l'hiver, elles ne sont pas enracinées, donc elles ne sont pas en capacité d'aller chercher l'eau en profondeur. Donc oui, on a vécu une situation très compliquée sur certaines zones. Alors, avec des écarts à 5 km, c'est ce qu'on disait, puisque vous pouvez avoir une zone où il y a eu un orage, il est tombé 40 mm et la récolte a été sauvée. Et là, ils vont plutôt faire une bonne récolte. Et puis à 5 km de là, une zone où ils sont passés à côté de tous les orages et où ils vont prendre une gamelle sans précédent.
Attendez, je vois si j'ai bien compris comment ça se passe. C'est au niveau de la plante elle-même. Il y a trop d'eau. Donc, bon, elle n'a pas besoin d'aller chercher. Donc,
elle ne s'enracine pas.
Donc, elle n'envoie pas ses racines.
Et là, elle n'a pas les moyens d'aller chercher l'eau qui peut être restée un peu plus en profondeur. Donc, faire du rendement. Après, la situation est différente de pays très secs parce que chez nous, on a développé des cultures comme le blé, qui sont des cultures sur un cycle long, qui sont présentes 10 mois de l'année. 9 à 10 mois de l'année et qui ont besoin de s'alimenter pendant les 9 à 10 mois de l'année. On a des cultures qu'on a développées qui sont liées et adaptées à notre climat et elles souffrent, elles, de ce changement climatique parce qu'elles ne sont pas adaptées à des coups de sec pendant 3 mois.
Mais cet enchaînement climatique, il n'y a pas que le stress hydrique, il y a aussi des parasites qui se développent plus facilement.
Alors, la disparition du gel dans nos zones a provoqué le développement de certains parasites. On a un exemple très criant cette année qui est le puceron. Le puceron, en général, les populations sont peu présentes au printemps. Donc, quand on sème des betteraves au printemps, en général, elles sont peu attaquées par les pucerons. Et les pucerons arrivent un peu après, quand ils commencent à se développer. Et là, très tôt cette année, on a vu les pucerons arriver parce qu'ils n'avaient pas gelé, donc ils étaient déjà présents autour des champs de betteraves. Quand on a semé les betteraves, ils se sont installés dedans. Et les pucerons, chez nous, ils sont vecteurs, ils amènent un parasite, c'est une maladie qui s'appelle la jaunisse sur les betteraves. Et donc, nos champs ont été contaminés très fortement par la jaunisse parce que les pucerons se sont mis très vite dans les champs à cause de l'absence de gel. On a des phénomènes similaires avec les altis sur le colza, avec des larves qui se présentent. Et donc, le changement climatique amène des arrivées de parasites qu'on a beaucoup de mal à réguler et sur lesquels on est un peu désarmé parce qu'en plus, on nous a parfois enlevé certains produits et qui peuvent causer des dégâts importants. Hein, les dégâts sur betteraves dans les champs les plus touchés, là, en ce moment, on peut perdre 50% du rendement. Et quand vous perdez 50% du rendement, donc de votre chiffre d'affaires, vous n'avez pas baissé de 50% vos charges. Vos charges sont restées la même. Et donc, vous passez d'un revenu qui pouvait être positif de 10% à un revenu qui peut être négatif de 30 ou 40%, ce qui est absolument dramatique.
Alors, pour répondre à cette situation quand même difficile, parce que c'est la troisième année consécutive, vous avez dit, et vous avez fait deux
plans. Depuis 2016, en fait, on vit des années difficiles dans certaines.
Ah, depuis 2016.
Depuis 2016.
Alors, vous avez fait deux plans de relance. En quoi ça consiste ?
Alors, nous, on a écrit deux choses, des mesures à court terme et des mesures à moyen terme. À court terme, un certain nombre d'aides directes pour aider les exploitations à passer le cap, des exonérations de charges, etc. Et puis, à plus long terme, développer des aides à l'investissement pour accompagner la transformation des exploitations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les transitions. Développer un étiquetage qui permette aux consommateurs de faire la différence entre un produit français et un produit étranger, de le faire aussi bien dans le supermarché que quand il va manger à la cantine ou au restaurant d'entreprise, pour savoir d'où vient le poulet. Parce que au supermarché, il le fait, c'est écrit dessus, donc il achète du poulet français. Par contre, quand il va dans un restaurant collectif, dans une cantine scolaire ou dans un restaurant d'entreprise, dans 70% du cas, c'est du poulet d'importation. Et puis le dernier point, c'est corriger par exemple les appels d'offres, la possibilité d'avoir dans les appels d'offres publics, ce qui est aujourd'hui interdit par l'Europe, cette possibilité d'avoir des critères sur l'origine du produit, ce qui est aujourd'hui totalement interdit dans les appels d'offres publics par l'Europe. Voilà, après on a un certain nombre d'autres mesures encore sur la compétitivité, sur des aides à l'investissement, qui sont plutôt d'ailleurs reprises dans le plan de relance aujourd'hui.
Attendez, je vais essayer de comprendre ça. Je suis agriculteur, j'ai mon produit, et les pouvoirs publics lancent un appel d'offres. Il y a des restrictions si je veux soumissionner.
Non, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de faire une différence entre un produit qui vient la cantine à côté de chez moi. Si elle fait un appel d'offres, elle n'a pas le droit de dire je préfère prendre le produit qui vient de chez moi parce qu'il est à 20 km et produit à 20 km plutôt que le produit qui est un produit d'importation et qui vient de Pologne ou de Roumanie. Il n'a pas le droit de faire cette différence-là. Il n'a pas le droit de faire un choix avec un critère d'origine du produit.
Et dans le même temps, on me dit de faire le circuit court.
Exactement. Dans le même temps, on nous dit qu'il faut développer une politique de la ferme à la fourchette. Et je ne vois pas comment on peut faire une politique de la ferme à la fourchette si on n'autorise pas dans les appels d'offres à choisir l'origine. Donc il y a une forme d'incohérence entre la politique agricole et la politique commerciale prônée par l'Union européenne qu'il faut régler.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Nous étions au siège parisien de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en compagnie des responsables nationaux de cette organisation qui ont fait l'état des lieux concernant les récoltes 2019-2020. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Nicolas Benita, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. Thank you.